le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Et ces deux ou trois, ou plus, et souvent plus, forment une communauté de croyants, une expression de l'Église. Les Églises sont donc faites d'hommes et de femmes, de leurs forces et de leurs faiblesses. Mais comment assume-t-on et parle-t-on aujourd'hui de la faiblesse, de la fragilité des Églises ? C'est le sujet du service protestant de ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Frédéric Chavel, pasteur et professeur de théologie systématique à l'Institut protestant de théologie de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, première question, Frédéric Chavel, la théologie systématique, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la théologie systématique, c'est la part la plus proche de la philosophie, on peut dire, hein, pour parmi les disciplines théologiques. D'autres s'occupent de la Bible, d'autres de l'histoire. Nous, on réfléchit à la foi chrétienne dans son ensemble. Puis spécialement, moi, je fais de la dogmatique, une discipline qui s'appelle la dogmatique. Et je dis toujours, j'ai une formule toute faite pour expliquer, je dis toujours que la dogmatique, c'est la part de la théologie qui sert à lutter contre le dogmatisme. Tout simplement parce que dans toutes les communautés de foi, il y a toujours des idées qui sont partagées par ces communautés et que quand ces idées vieillissent, ça se met à faire plus de mal que de bien aux gens. Et donc régulièrement, il faut repenser ce qu'on a envie de dire, d'annoncer.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi le thème de la fragilité, de la faiblesse des Églises ?
Alors j'ai un peu deux raisons qui m'ont mené vers ça. D'une part, en Europe, je trouve qu'il y a un contexte en Europe où les églises sont beaucoup trop souvent sur la défensive à cause de la perte numérique des églises chrétiennes en Europe. Et souvent les églises réagissent à ça en voulant se défendre au lieu d'être constructives et positives. Et puis par ailleurs, au niveau mondial, il y a aussi une difficulté. C'est que, au contraire, dans d'autres pays du monde, hors Europe, on a parfois des églises, au contraire, trop combattantes. Alors, elles combattent pour des thèmes à juste titre, mais parfois le combat devient de l'affrontement.
Alors, vous parlez des églises. Parfois, dans les médias, on entend parler de l'église avec un grand E. Dans le protestantisme, et selon vos termes, qu'est-ce que vous entendez par les églises, l'église ?
Ben, déjà, quand on parle d'église, il faut toujours parler à la fois au singulier et au pluriel. Parce que au singulier, il y a l'idée la plus englobante, l'église de Jésus-Christ, l'église que Dieu porte dans son cœur, la communauté des croyants. Mais ça dépasse largement les églises visibles. Et puis, il y a par ailleurs ces institutions terrestres que sont les églises. Et en fait, on peut jamais déconnecter l'un de l'autre. Parce que si on pense qu'à l'Église dans le sens divin, céleste, et qu'on oublie de dire que c'est aussi ça, la réalité qu'on a sous les yeux, on manque quelque chose. Et si à l'inverse, on ne fait que regarder les institutions ecclésiales et qu'on oublie quelle est leur quête, ce qu'elles cherchent au fond d'elles-mêmes, là aussi on fait une lecture trop plate.
Frédéric Chavel, je vous laisse nous conduire dans ce temps de méditation. Et vous commencez par la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 à 23. Et dans cet extrait, c'est Jésus qui parle.
Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père, qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. »
Thank you.
Si j'ai choisi de lire avec vous cet extrait de texte ce dimanche, c'est à cause d'un problème bien précis. Le fait que les églises chrétiennes, pour beaucoup de nos contemporains, ne sont plus crédibles. Et du coup, le message qu'elles voudraient porter n'apparaît pas crédible non plus. Dans l'extrait que nous avons lu, Jésus critique ceux qui prétendent être proches de Dieu à grands cris en disant « Seigneur, Seigneur !» alors qu'en fait, leur conduite est tout ce qu'il y a de plus éloigné de Dieu. Jésus fait apparaître combien ces gens sont aveuglés. En fait, autour d'eux, tout le monde se rend compte que leurs prétentions, en disant « Seigneur, Seigneur », n'empêche pas qu'ils font autre chose que la volonté de Dieu. On a l'impression que ces personnes-là, dans le texte, sont les seules à ne pas s'en rendre compte. Ils crient très fort leur loyauté à Dieu, mais leur parole ne convainc personne, sauf peut-être eux-mêmes. Et encore, ils doivent sentir que ça ne marche pas. Eh bien, cette histoire que Jésus donne est exactement à l'image des églises pour beaucoup de nos contemporains. Beaucoup de nos contemporains voient les églises comme très fortes pour ouvrir la bouche et dire « Seigneur, Seigneur », mais en même temps, tout le monde voit qu'elles se comportent mal. Je vais le dire très clairement, moi je pense que les gens de notre époque ont raison d'adresser cette critique aux églises, sans détour, directement. Il faut que les églises acceptent cette critique. Et il faut qu'elles acceptent beaucoup plus qu'elles ne le font d'avoir une attitude d'humilité au lieu d'une attitude d'orgueil. Alors je sais que bien souvent, c'est les mécanismes d'autodéfense des institutions, quand on met le projecteur sur les fautes des églises, sur les difficultés des églises, elles préfèrent repousser la faute sur autrui. Par exemple, les églises disent « si notre message est mal perçu, c'est à cause de l'ignorance des gens » ou encore « si les scandales se diffusent, c'est à cause des journalistes qui sont malveillants » ou « si les gens se détournent du christianisme, c'est parce qu'on leur a mal expliqué », etc., etc. Toujours la faute des autres. Je voudrais aujourd'hui reprendre avec vous autrement cette question de la crédibilité des églises chrétiennes. Parce que tout en étant pasteur et théologien, moi-même j'en ai assez de ces stratégies d'auto-justification des églises. Si les gens se détournent des églises, ils ont leurs raisons. Et si on veut les prendre au sérieux, il faut écouter ce qu'ils disent au lieu de considérer qu'ils n'ont rien compris. Il me semble que, à la source de ce grand reproche qui est fait aujourd'hui aux églises de n'être pas crédibles, il y a quelque chose comme une grande déception. Pourquoi ? Parce que les églises revendiquent, à l'appui du message biblique, de dire quelque chose sur la vérité. Les églises croient que la parole de Dieu conduit dans la vérité. Et elles-mêmes, elles veulent participer, c'est légitime, à cette recherche de la vérité. Mais du coup, le jour où elles trahissent, le jour où elles trompent, le jour où elles mentent, la déception est vraiment cuisante. C'est vrai qu'au cœur du message biblique, il y a une grande quête, justement la quête de la vérité. Et pour chacun de nous dans notre humanité, dans l'expérience quotidienne, nous voyons autre chose. Nous sommes tous aux prises avec du mensonge, de la tromperie, l'égarement, l'incertitude, difficulté à s'orienter, doute sur le vrai et le faux, confusion, des apparences, tout ça nous le rencontrons quotidiennement. Alors, la promesse de la Bible de pouvoir à nouveau, avec l'aide de Dieu, aller vers la vérité tout entière, c'est vraiment une espérance merveilleuse. On en a le besoin. Mais dans la Bible, justement, il y en a un seul qui est pleinement vrai. C'est Dieu lui-même. Dieu dit et c'est fait. Sa parole s'accomplit. Son regard perce les apparences, démasque les illusions. Toutes les choses sont devant ses yeux et comme dit Ésaïe, quand la parole de Dieu sort de sa bouche, elle ne revient jamais sans avoir eu un effet. Autrement dit, dans la Bible, quand Dieu parle, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est du solide, c'est de l'efficace, ce sont des paroles qui agissent, qui guérissent, qui changent les situations perdues. Alors, on peut vraiment comprendre que les églises s'intéressent à cette espérance de vérité. Mais tout le problème est là. Quel rôle vont avoir les églises par rapport à cette recherche? Et là, il y a deux attitudes possibles. Vous allez voir que j'ai une nette préférence pour la seconde attitude. La première attitude possible de la part des églises, c'est de se considérer comme détentrice de la vérité. Alors dans cette vision, l'église est comme garantie par sa sainteté, elle a toujours une forme d'infaillibilité qui fait que dans l'ensemble, malgré les erreurs des uns et des autres, le témoignage de l'église reste vrai. Dans cette vision, l'église est toujours crédible et parce qu'elle est crédible, alors le message qu'elle apporte au nom de Dieu va être crédible lui aussi. Tout ça, ce serait formidable si ça fonctionnait. Sauf que justement, le témoignage de nos contemporains par rapport à ce modèle-là met le doigt là où ça fait mal. Ils nous disent que nos églises n'ont pas toujours cette perfection, cette sainteté visible du grand public. Et plus les églises basent leur enseignement sur cette revendication de perfection, plus elles se discréditent elles-mêmes. Dire « Seigneur, Seigneur » tout en s'écartant de la justice, c'est le verset du jour, eh bien, faire cela, c'est le comble de l'hypocrisie. Du coup, les gens ne veulent même plus écouter ce que disent ceux qu'ils voient comme des hypocrites. Voyez bien que pour moi, cette première approche des églises n'est pas souhaitable. La seconde attitude possible, qui est très différente, consiste au contraire à dire que l'église n'est pas détentrice de vérité, mais en quête de vérité. Qu'elle n'est pas détentrice d'infaillibilité, mais qu'elle travaille chaque jour pour lutter contre ses propres erreurs. Qu'elle n'est pas dans le confort d'une sainteté acquise une fois pour toutes, mais que chaque jour, c'est une exigence de s'approcher de la sainteté de Dieu. Paradoxalement, dans cette seconde attitude, il me semble que le seul chemin d'authenticité pour les églises, c'est d'être très très clair sur leurs propres fautes si elles veulent parler de vérité de Dieu. Si les églises s'intéressent à la vérité de Dieu, ce n'est pas parce qu'elles sont déjà arrivées à la vérité, et au contraire, c'est parce que comme tout le monde, elles ont du mal avec la vérité et elles la désirent d'autant plus. Au fond, le seul moyen d'être crédible dans l'annonce de l'Évangile, selon moi, c'est de partir d'un discours sans concession sur les fautes des églises telles que nous les connaissons. Dire clairement, par exemple, que les églises ont des problèmes d'abus de toutes sortes. Abus sexuels, abus de pouvoir, abus de confiance, scandales financiers. Dire que dans les communautés chrétiennes, le racisme n'est jamais totalement éradiqué. Dire que l'Église n'est pas un employeur modèle. Dire que l'Église n'est pas non plus un modèle de transparence institutionnelle, etc. Les Églises ne sont peut-être pas pires que le reste du monde, mais en tout cas, elles ne sont pas meilleures. Et tout ça, justement, nos contemporains le pressentent. Tant que les Églises feront l'impasse sur cette mise au clair, elles ne seront pas prises au sérieux dans ce qu'elles diront. Sauf, peut-être, par quelques personnes qui sont dans un moment de faiblesse passagère et qui préféreront se bercer d'illusions. C'est vrai que ça peut nous arriver à tous, à un moment ou à un autre, d'être tellement mal dans la vie, tellement perdu, qu'on se met à accepter, les yeux fermés, tout ce qu'on nous propose de rassurant. Simplement parce qu'à certains moments, on n'a plus la force d'être lucide et d'être critique. Mais ce serait terrible si le seul public possible pour les églises consistait dans des personnes en situation de détresse passagère.
Thank you.
Je voudrais maintenant vous faire observer au contraire un détail dans l'évangile de Jean qui a toute son importance. Notre première lecture était dans l'évangile de Matthieu. Chez Jean, concernant le rapport à la vérité, il y a la mise en scène d'une grande différence entre Jésus et ses disciples. Jésus est présenté comme celui qui parle publiquement avec la plus grande autorité. Pourquoi ? Parce que chez lui, on sent une adéquation entre la parole et le comportement, et surtout une adéquation avec la vérité de Dieu qui l'inspire. Par exemple, lorsque, pendant son procès, Jésus est questionné sur son enseignement, il répond, et je cite l'Évangile, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce moi que tu interroges ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté, ils savent bien ce que j'ai dit. » Vous voyez qu'ici, Jésus n'est pas dans l'auto-justification. Il accepte d'être jugé, non pas sur ce qu'il pourrait dire pour sa défense, mais d'être jugé en fonction de ce que les gens auront retenu de lui. Par contre, concernant les disciples, dans le même évangile de Jean, et d'une manière générale dans les quatre évangiles bibliques, on voit bien que le rapport à la vérité est beaucoup plus compliqué pour eux que pour Jésus. Les disciples ne peuvent pas accéder à la vérité tout entière, tout d'un coup. Jésus les instruit tout progressivement, avec des paraboles. Les paraboles, ça ne dit pas tout d'un coup. Des paraboles, ça fait réfléchir, ça fait progresser celui ou celle qui les écoute. Et de la même manière, quand Jésus fait des adieux à ses disciples avant de partir, qu'est-ce qu'il leur annonce ? Qu'ils vont devoir continuer à progresser vers la vérité. Il dit, je cite ici Jean 16, versets 12-13, « J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière. » Ainsi, pour terminer, je dirais qu'être disciple de Jésus, comme veulent l'être les Églises aujourd'hui, ça ne veut pas dire détenir toute la vérité, ça veut dire être en quête de vérité, avec solidarité, avec tous ceux qui cherchent le vrai, avec tous ceux qui en ont aussi assez des vérités prétendues ou des vérités forcées, des vérités imposées. Parce que la vérité est divine, parce qu'elle est d'une profondeur, d'une beauté qui sont au-delà de notre condition terrestre, on ne peut finalement en parler qu'en espérance. Ah oui, ce serait beaucoup plus simple si on pouvait tenir dès maintenant dans nos mains le vrai, posséder le vrai sous une forme définitive. Je m'associerais à ce que disait le philosophe Paul Ricoeur dans un article sur vérité et mensonge. Il disait « On aimerait bien pouvoir simplement dire que la vérité ne se contredit pas, tandis que le mensonge est légion. Que la vérité rassemble les hommes, que le mensonge les disperse. » Malheureusement, il faut avouer que ce n'est pas si simple. L'unification du vrai, c'est une première violence. Et historiquement, cette tentation d'unifier violemment le vrai, elle est souvent venue de deux pôles, le clérical et le politique. Fin de citation. Alors je reviens à notre verset de départ. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Est-ce que les églises, à cause de leurs erreurs, doivent s'arrêter d'invoquer le Seigneur ? Non. Mais il faut qu'elles prennent la mesure de cet incroyable défi que c'est d'oser témoigner de Dieu, sachant que c'est lui le seul qui dit vrai. Je vous invite maintenant à vous associer à un moment de prière. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de clarté dans leur vie, ceux qui sont à un moment où ils doivent faire des choix et qui ne savent pas trop quoi faire, qui ont besoin d'être accompagnés de manière loyale et intègre. En leur faveur, fais progresser la loyauté, l'intégrité des Églises. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont besoin de guérison dans leur vie, et particulièrement ceux qui ont été victimes des systèmes de domination. Ceux qui sont à un moment où ils doivent se reconstruire, retrouver le goût de la vie, et échapper à la présence cauchemardesque de ceux qui les ont attaqués. En leur faveur, fait progresser les églises vers plus de justice, et tout particulièrement lorsqu'elles sont elles-mêmes responsables des agressions. Seigneur, nous te prions pour ceux qui ont besoin d'espérer dans la vérité, ceux qui se perdent dans la complexité du monde globalisé, ceux pour qui les références sont si nombreuses, si variées que tout paraît hors de contrôle, ceux qui sont inquiets à cause de visions catastrophistes, complotistes, ceux pour qui, parce qu'il y a trop de fausses nouvelles, de fake news, il n'y a plus de bonnes nouvelles possibles. En leur faveur, fais progresser les églises vers plus d'humilité et plus de courage devant la variété du monde. Seigneur, nous te prions pour chacun, chacune d'entre nous, dans notre condition solidaire de quête de vérité. Réconcilie-nous. Guéris-nous de cette tentation incessante de vouloir avoir raison contre les autres, de se croire plus malin, de se croire plus avisé, de se croire mieux informé que les autres. Garde-nous de nous poser nous-mêmes comme les juges des vérités. Et en faveur de cette réconciliation, guéris aussi les églises qui ont trop facilement la prétention d'être plus près de la vérité que les autres. Enfin, Seigneur, reçois toutes nos prières, nous te les présentons dans un esprit d'unité. Amen.
Merci beaucoup Frédéric Chavel d'avoir été en notre compagnie. Vous êtes professeur et pasteur à l'Institut protestant de théologie à Paris. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestantpluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant service protestant. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Et je vous retrouve tout de suite pour Culture Protestante.